Un journal présenté ce soir par Marc Potvin. Bonsoir Marc.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Le virus est là pour quelques mois encore. Il faut éviter un confinement généralisé. Déclaration du Premier ministre il y a quelques instants après un conseil de défense aujourd'hui sur l'épidémie de coronavirus. Jean Castex confirme la réduction de la durée d'isolement pour les malades. Elle passe à 7 jours. Nous y revenons dès le début de ce journal. La Suisse place 9 régions françaises en zone à risque élevé, notamment l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les personnes qui en reviennent devront rester chez elles pendant 10 jours. Une nouvelle date à l'agenda du patronat et des syndicats le 22 septembre. Ultime réunion ce jour-là autour d'un diagnostic partagé sur le télétravail. Réunion sans la CFTC, vous comprendrez pourquoi elle quitte les discussions. Nous serons aussi aux États-Unis en ce 11 septembre 2020 à Shanksville, en Pennsylvanie, où l'un des 4 avions détournés il y a 19 ans s'est écrasé. Commémoration très politique. En pleine campagne présidentielle, les 2 candidats se rendent sur place. Au Chili, une chanson crée la polémique en pleine campagne, cette fois-ci sur le référendum sur l'abandon ou pas de la constitution héritée de la dictature. Nous retrouverons notre correspondante à Santiago. Et puis à la fin de ce journal, l'enquête de la cellule investigation de Radio France sur les escrocs franco-israéliens. Ils sévissent dans le monde entier. Un nouveau conseil de défense a donc eu lieu aujourd'hui sur la situation sanitaire. À l'issue de cette réunion, le Premier ministre Jean Castex a pris la parole.
Comme nous le faisons à intervalles réguliers, nous avons analysé l'évolution de la situation épidémiologique. Celle-ci fait apparaître une dégradation manifeste. Le virus circule de plus en plus en France. Le taux d'incidence est monté à 72 cas pour 100 000 personnes contre 57 il y a une semaine. Le pourcentage des cas positifs ne cesse d'augmenter. Un élément suscite particulièrement notre inquiétude. Pour la première fois depuis de longues semaines, nous constatons une augmentation sensible de personnes hospitalisées. Or, les personnes qui arrivent en réanimation sont les mêmes qu'au mois de mars. Tout confirme que le virus n'a pas baissé en intensité, avec une proportion toujours aussi élevée de personnes âgées.
Le Premier ministre Jean Castex, bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
Au vu de cet état des lieux, Tara, la stratégie de lutte contre le coronavirus en France va-t-elle changer ?
Changer, oui, se modifier un peu. Bien sûr, Jean Castex s'est voulu très pragmatique face à une circulation accélérée du virus. Il annonce que l'accès va être priorisé. C'était une demande assez forte. Nous faisons déjà 1 million de tests par semaine. La France est le 3e pays d'Europe en nombre de tests, s'est félicité le Premier ministre. Mais les délais sont trop longs pour les personnes prioritaires. On va donc organiser un accès plus facile au laboratoire avec des créneaux horaires qui leur seront réservés. Et puis des tentes vont être installées dans les grandes métropoles aussi pour tester plus vite. Auront accès à ces files prioritaires les personnes qui présentent des symptômes du Covid et qui sont donc contagieuses, qu'il faut isoler très vite. Les personnes au contact de malades avérés, et puis le personnel soignant, notamment ceux et celles qui s'occupent des personnes âgées. Ensuite, comme prévu, la durée de l'isolement va être réduite. Marc, le gouvernement s'appuie sur l'avis du conseil scientifique qui recommande une mise en quarantaine de 7 jours seulement. Des études ont démontré que la période où un malade est contagieux se limiterait à ce laps de temps. Cet isolement sera assorti de contrôle, mais aucune précision pour l'instant n'a été donnée par Jean Castex. Enfin, 42 départements sont désormais coloriés en rouge. Les préfets de ces zones doivent prendre des mesures contraignantes supplémentaires. Enfin, en tout cas, c'est une possibilité qui leur est offerte sur le port du masque ou la limitation de certains rassemblements sur la voie publique, notamment, a dit le Premier ministre. Et puis, Jean Castex a dépeint une situation particulièrement préoccupante à Marseille, à Bordeaux et en Guadeloupe. Là aussi, il attend d'ici lundi des suggestions, notamment des préfets. Globalement, le Premier ministre en appelle donc au respect des gestes barrières et au civisme de chacun. L'avenir dépend de vous et de nous, a-t-il conclu sur un ton plutôt solennel.
Tara Schlegel, merci. Les médecins n'ont pas à établir de certificat médical pour le retour à l'école des enfants qui avaient des symptômes évocateurs du Covid-19, mis au point de l'Ordre des médecins qui déplore les pressions de certains établissements. Il souligne que le ministère de l'Éducation nationale ne demande pas aux parents de présenter un certificat médical de non-contre-indication. Les opposants à la généralisation du port du masque à Strasbourg n'ont pas rendu les armes. Ils déposent un nouveau recours devant le tribunal administratif. Il n'y a pas de périmètre bien défini dans le nouvel arrêté pris cette semaine par la préfète du Bas-Rhin, dénonce la vingtaine de personnes à l'origine de ce nouveau recours. La situation sanitaire en France, on en parlait à l'instant, préoccupe la Suisse. Le pays classe 9 régions de l'Hexagone en zone à risque élevé. Parmi elles, l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les personnes qui en reviennent devront rester chez elles pendant 10 jours. Jérémy Lanche est à Genève pour France Culture.
La mesure était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines déjà. Depuis que l'on sait que la France a dépassé le seuil de 60 nouvelles infections pour 100 000 habitants, seuil fixé par les autorités suisses pour déclarer qu'une région est à risque, la situation en France est prise très au sérieux, a dit le ministre de la Santé Alain Berset. Mais pas question pour le moment de fermer les frontières, comme c'était le cas au printemps dernier.
Il n'est pas prévu de contrôle supplémentaire aux frontières. Il faut être très clair à ce sujet. Dès le moment où les frontières sont ouvertes, ça n'est pas réalisable ni réaliste. Donc on attend vraiment là la responsabilité individuelle de chacune, chacun. C'est ça l'appel principal, c'est d'éviter d'y aller. Et puis si vraiment c'est pas possible autrement, alors de se mettre en quarantaine au retour lorsque c'est exigé.
Des exceptions existent, notamment pour ceux qui doivent se rendre dans des régions à risque pour des motifs professionnels ou de santé, à condition qu'ils n'y restent pas plus de 5 jours. Soulagement également pour les travailleurs frontaliers de Haute-Savoie, de l'Ain, du Jura et du Doubs. Ils ne sont pas concernés par la quarantaine, même si la Suisse promet de revoir sa copie si des clusters devait y apparaître. Le paradoxe, c'est que des cantons suisses connaissent un taux de circulation du virus plus élevé que certaines régions françaises. C'est le cas notamment à Genève, qui devrait techniquement être isolée du reste de la Suisse si la liste rouge était appliquée au niveau national.
Jérémy Lanche, 18h07 sur France Culture. Un accord national sur le télétravail n'est toujours pas pour demain. Le MEDEF a proposé aux syndicats une nouvelle date de réunion le 22 septembre pour finir de discuter sur un diagnostic partagé sur cette manière de travailler. Faire un état des lieux, ça ne suffit pas, clament en cœur les syndicats. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
L'un d'entre eux a d'ailleurs décidé de claquer la porte des discussions.
Oui, il s'agit de la CFTC, pourtant peu habituée aux coups d'éclat, mais pour son président Cyril Chabanier, la coupe est pleine.
Le patronat aujourd'hui nous dit encore, en résumé, continuons à discuter, continuons à avancer sur le diagnostic, on a le temps pour faire des négociations ou voir s'il y a besoin de négociations. Mais en même temps, depuis le mois de mai, nous on demande cet accord et ça fait 4-5 mois qu'on leur a laissé le temps de réfléchir, laissé le temps de faire un diagnostic. Donc au bout d'un moment, il faut prendre une décision. On nous dit oui ou on nous dit non, mais on ne va pas continuer simplement à se voir pour discuter de ce diagnostic et éventuellement signer un diagnostic partagé. Enfin, ça n'a pas de sens.
Du côté de la CGT, pas de politique de la chaise vide à ce stade, mais une volonté de sortir de ces discussions qui s'enlisent. À la CFDT, on constate qu'il n'y a pas grand-chose de neuf sous le soleil du côté de la position patronale. Tous les syndicats sont unanimes, il faut un accord interprofessionnel sur le télétravail.
Pour quelle raison, Anne-Laure ?
Eh bien, pour fixer un cadre. Avec la crise du Covid, le télétravail est devenu un sujet de société, remarque la CGT. Mais au MEDEF, on renvoie à ce qui existe déjà. Hubert Mongon, négociateur pour l'organisation patronale.
La disposition de l'accord de Interpro 2005 reste pour la très grande majorité d'entre elles applicable, pour celles qui n'ont pas été modifiées par les ordonnances de 2017, et que les ordonnances de 2017 sont venues compléter, alléger, préciser un certain nombre de dispositions et renvoient, dans la majorité des cas, à la négociation d'entreprise ou à la négociation de branche. Donc nous souhaitons, nous, évoluer dans ce contexte-là, et il nous paraîtrait surprenant que le gouvernement revienne sur le contenu des ordonnances de 2017.
Les syndicats estiment au contraire que les ordonnances de 2017 ont rendu plus floues les dispositions antérieures, notamment sur la question de la prise en charge des coûts liés au télétravail. Du côté du gouvernement, on semble plutôt réceptif au discours patronal. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, se dit ainsi favorable à ce que la concertation débouche à minima sur un guide de bonnes pratiques.
Anne-Laure Jumet, merci. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, donne le ton à la veille d'une nouvelle nouvelle mobilisation des Gilets jaunes dans toute la France, qu'on les appelle Black Bloc, ultra jaune, ultra gauche ou ultra droite. La République ne peut pas reculer devant le mal extrémiste. Fermez les guillemets. Gérald Darmanin annonce que chaque tir de LBD, lanceur de balles de défense, lors de manifestations sera désormais soumis à l'accord d'un superviseur. En Grèce, à Lesbos, entre 1000 et 2000 demandeurs d'asile sans-abri ont manifesté cet après-midi pour réclamer leur départ de cette île. Lesbos, où de gigantesques incendies ont détruit ces derniers jours le camp de réfugiés de Moria. 10 pays de l'Union européenne se sont engagés à accueillir quelque 400 migrants mineurs non accompagnés. La France fait partie de ces pays. Dans 5 jours, la présidente de la Commission européenne prononcera un discours sur l'état de l'Union. À cette occasion, Ursula von der Leyen va présenter des propositions pour atteindre les objectifs de la loi climat présentée en mars. Des objectifs qui seront en fait élargis, rendus plus ambitieux, Pierre Benazet.
Effectivement, on s'oriente vers une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre, toujours par rapport au niveau de 1990. C'est 15 points de plus que les objectifs qui avaient été fixés en mars. C'est pas une surprise complète parce que on savait que la Commission avait commandé une étude d'impact pour 50-55% afin d'amender ces premiers objectifs. La transition climatique, c'est la pierre angulaire de l'actuelle Commission européenne. Et cet objectif annoncé dès sa prise de fonction en décembre par Ursula von der Leyen n'est qu'une étape intermédiaire puisque le but, c'est d'atteindre 0% 2050, la fameuse neutralité carbone sur laquelle le sommet européen de décembre a failli achopper, on s'en souvient. Il reste surtout maintenant à savoir quels seront les moyens utilisés pour redescendre à ces niveaux, que ce soit dans la production d'énergie, la production industrielle, la capture de carbone, la reforestation. Mais ces indiscrétions, 5 jours avant leur présentation, participent aussi d'une forme de jeu politique, peut-être parce que les eurodéputés espèrent influer sur Ursula von der Leyen. La commission environnement du Parlement européen a voté ce matin pour 60% de réduction et a aussi demandé que l'objectif soit comptabilisé pays par pays et non pas globalement pour les 27, de manière que chacun prenne ses responsabilités.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles pour France Culture, merci. Aux États-Unis, des commémorations du 11 septembre 2001 en pleine campagne présidentielle. Joe Biden s'est rendu sur le site de Ground Zero à New York. Prochaine étape pour le candidat démocrate, Shanksville en Pennsylvanie où s'est écrasé l'un des 4 avions détournés il y a 19 ans. Donald Trump, lui, est ce soir sur place. Il doit prononcer un discours, Marwa Mann.
Interdite au public en raison des restrictions sanitaires, la cérémonie a également été raccourcie.
Linda.
Le nom de chaque victime prononcée en présence des familles et de Donald Trump, qui a rendu hommage aux victimes héros du vol 93 qui ont tenté de prendre le contrôle de l'avion que les terroristes dirigeaient vers Washington et son Capitole.
On that September morning,
ce matin de septembre, alors que l'Amérique était attaquée, les terroristes du vol 93 avaient une quatrième cible en tête. Ils se trouvaient à seulement 20 minutes de leur sinistre objectif, mais le courage et la détermination de ces 40 hommes et femmes, passagers et membres d'équipage, ont permis d'empêcher cette attaque meurtrière au cœur de la démocratie américaine. En choisissant de se rendre sur les lieux du crash en Pennsylvanie, Donald Trump est en terrain conquis. Il a remporté cet état-clé de justesse en 2016. Le président américain compte ici de très nombreux soutiens, comme a pu le constater Henry, un Texan qui a parcouru plus de 2300 km sur sa Harley-Davidson pour visiter le mémorial. J'ai vu plein de panneaux en arrivant ici. J'ai seulement compté deux Biden et des milliers de Trump. Après la visite de Donald Trump, c'est au tour de son rival Joe Biden de venir dans l'après-midi rendre hommage aux victimes du vol 93 dans cet état où il est né et où le Parti démocrate espère prendre sa revanche.
Omar Waman, envoyé spécial de France Culture à Shanksville, en Pennsylvanie. Une journée de commémoration également au Chili. Ce 11 septembre marque les 47 ans du coup d'état militaire contre le président socialiste Salvador Allende. Un coup d'état qui a porté le général Pinochet au pouvoir et mené quelques années plus tard à l'instauration d'une nouvelle constitution d'inspiration néolibérale. Dans un mois et demi, les Chiliens seront appelés à se prononcer pour ou contre l'abandon de cette constitution forgé sous la dictature et toujours en vigueur. La campagne bat son plein et une petite phrase cette semaine a mis le feu aux poudres, Justine Fontaine.
Oui, car l'UDI, un parti fondé par Jaime Guzmán, idéologue de la dictature de Pinochet et aussi père de la constitution actuelle, a en effet décidé de publier la phrase suivante sur les réseaux sociaux « Por el derecho de vivir en paz, pour le droit de vivre en paix, rechazo, je refuse une nouvelle constitution ». Sauf que c'est aussi le titre de l'une des plus célèbres chansons de Víctor Jara, chanteur communiste torturé et assassiné par les militaires, quelques jours après le coup d'État de 1973. Après sa mort, la chanson est devenue un hymne de l'opposition à la dictature et depuis près d'un an, elle résonne de nouveau dans les rues chiliennes pour dénoncer la répression des manifestations lancées en octobre dernier contre les inégalités sociales et pour une nouvelle constitution. Alors l'utilisation du titre de cette chanson par le parti qui défend l'héritage de la dictature a indigné de nombreux Chiliens. Vous avez tué Victor Jara et maintenant vous faites de la propagande avec ses paroles. Vous n'avez pas honte, voici ce qu'ont commenté de nombreux internautes. Interrogé sur le sujet, un député du parti ultraconservateur a répondu que cette belle chanson, je cite, « ne devrait appartenir à aucun camp politique en particulier ». Une chanson qui a pourtant été écrite contre la guerre du Vietnam et rend hommage explicitement à Ho Chi Minh dans ses paroles.
Reportage de Justine Fontaine, notre correspondante au Chili. En France, l'arrière-petite-nièce d'Arthur Rimbaud, opposée à son entrée au Panthéon avec Paul Verlaine, comme le veut une pétition. S'ils s'y retrouvent ensemble, tout le monde va penser homosexuel. Mais ce n'est pas vrai, déclare-t-elle. Rimbaud n'a pas commencé sa vie avec Verlaine et ne l'a pas terminée avec lui, ajoute Jacqueline Tessier-Rimbaud. La ministre de la Culture qui a signé cette pétition estime de son côté que le fait de faire entrer les deux amants au Panthéon aurait une portée profondément actuelle. Et à 18h16, c'est l'heure de notre rendez-vous avec la cellule investigation de Radio France. Aujourd'hui sur les escrocs franco-israéliens. Ils sont une infime minorité sur les 150 000 franco-israéliens, mais ils font beaucoup parler d'eux. Bonsoir Frédéric Mettezo.
Bonsoir à tous.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Jérusalem. Vous nous rappelez d'abord quelques escroqueries très médiatisées.
Oui, on peut parler de ce faux Jean-Yves Le Drian. Vous vous souvenez, un homme portant un masque en latex au visage du ministre et qui demandait de l'argent pour le compte de l'État français. Deux escrocs ont été condamnés à 7 et 10 ans de prison ferme avant-hier à Paris. Rappelons aussi la fraude à la TVA carbone, jusque 4 milliards d'euros détournés. Et puis, il y a aussi des escroqueries quotidiennes moins spectaculaires.
Par exemple, Frédéric.
Par exemple, pendant le confinement, deux franco-israéliens près de Tel Aviv ont été interpellés pour avoir téléphoné à une dizaine de magasins alimentaires du Grand Est. Ils se faisaient passer pour un grossiste qui voulait se faire payer et à des particuliers, ils demandaient de l'argent pour la recherche d'un vaccin au coronavirus. Par téléphone ou par internet, d'autres tentent de vendre des placements d'épargne à 30% sans risque ou encore la carte verte, ce document officiel pour travailler aux États-Unis. Un commissaire de police français, très au fait des dossiers entre la France et Israël, m'a décrit ces réseaux d'escrocs. Ses propos sont lus par un journaliste.
En bas, il y a les soldats. Ce sont les petites mains organisées en petites cellules, installées dans des appartements conspiratifs. Il y a des lignes téléphoniques pour ceux qui téléphonent en français, des ordinateurs, puisque des geeks créent des faux sites pour crédibiliser l'escroquerie avant de les faire disparaître rapidement du web. Eux, c'est le sous-prolétariat. Il y a aussi les intermédiaires. Alors eux, ils sont chargés des plateformes de blanchiment. Ils sont bien mieux rémunérés. Ils recrutent des hommes de paille pour ouvrir des comptes bancaires en Europe de l'Est ou en Chine. Et puis il y a le sommet, 20 à 30 individus. Et on sait qu'ils ont été approchés par de gros voyous israéliens à la recherche du meilleur rapport risque-prix et qui ont donc essayé de mettre la main sur ces activités.
Mais toutes les petites mains, Frédéric, ce sont des gens malhonnêtes au départ.
Mais non, pas du tout, justement. Sauf qu'en arrivant de France, il n'est pas toujours simple de s'intégrer en Israël. La vie est chère et les prestations sociales moins bonnes. Beaucoup de diplômes ne sont pas reconnus. Et l'hébreu, il faut le dire, n'est pas une langue facile. Alors, les recruteurs tentent de les démarcher. Noémie a été approchée plusieurs fois.
Ça a été dans un restaurant. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Et puis, la réponse, c'était, moi, je travaille dans un call center. Je vends des listings de noms à des entreprises d'isolation à 1 euro. Et voilà, si tu veux te faire de l'argent, si ça t'intéresse, c'est super. Mais c'est cachère ce que tu fais? Mais c'est très cachère.
Quand on demande si c'est cachère, ça veut dire, est-ce que c'est légal?
Exactement comme on pourrait dire, c'est pas très catholique en France.
Les intermédiaires et ceux du sommet sont souvent arrivés dans les années 2000 avec un passé délinquant en France et ils ont abusé de la loi israélienne du retour, nous raconte Emmanuel Elbaz Phelps de la télévision publique israélienne.
C'est une loi qui existe depuis 1950, qui en fait permet à tout juif qui décide de venir s'installer en Israël d'obtenir de façon automatique la nationalité israélienne. Il existe une condition qui dit que personne ayant un casier judiciaire peut se voir refuser cette nationalité israélienne. Sur l'histoire du pays d'Israël, les cas refusés d'Aliya se comptent à peine sur les doigts de la main. Et ça, les affairistes voyous le savent.
Et cette loi propose même à ces néo-israéliens de changer de nom et de prénom. Je vous laisse imaginer la suite.
Est-ce que ça veut dire que les autorités israéliennes laissent faire ?
Non, c'est pas ça, mais dans ce pays qui dépense beaucoup pour la lutte contre le terrorisme et pour l'occupation d'une partie de la Cisjordanie, eh bien, il ne reste plus beaucoup de bras et de budget pour lutter contre la délinquance financière. Mais la coopération entre la France et Israël s'améliore. Selon nos informations, Paris a demandé l'extradition d'une douzaine de binationaux et la moitié sont bien engagés. La France a aussi simplifié ses procédures. Israël ne veut plus apparaître comme une oasis pour les escrocs.
Merci Frédéric Mettezo. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Votre enquête est à retrouver sur franceculture.fr. Un mot du temps rapidement. Il sera instable demain sur les Alpes et le relief corse, mais ensoleillé sur le reste du pays, selon Météo France. Bonne soirée à l'écoute de France Culture. Ce journal a été réalisé avec l'aide de Jean-François Braun. Il est 18h21.